France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Depuis le départ des Britanniques, l'Europe se retrouve dans une situation paradoxale. La langue anglaise est la langue de travail des élus et des fonctionnaires de Bruxelles, mais elle n'est plus la langue officielle d'aucun pays membre, à l'exception évidemment de l'Irlande, où elle partage son statut avec le gaélique. L'allemand va-t-il donc s'imposer au détriment du français, qui avait la côte à l'époque où Jacques Delors présidait la commission? Rien n'est moins sûr, mais la question est peut-être accessoire en réalité. Umberto Eco l'a un jour résumé d'une formule, la langue de l'Europe, c'est la traduction. On pourrait même aller un peu plus loin, et se demander, peut-être avec un peu de mauvais esprit, si la langue de l'Europe, ce ne serait pas le jargon administratif pratiqué dans toutes les langues, dans les couloirs des institutions communautaires. Ces variations linguistiques ont leur tour de Babel, un bâtiment aux dimensions colossales, au cœur du quartier européen de Bruxelles. Ce bâtiment est connu sous le nom de Berlaymont. C'était le nom d'un ancien couvent de religieuses établi au même endroit auparavant. Et vous, parlez-vous l'européen? Ou plutôt, êtes-vous prêt pour un voyage sonore au cœur de la machine bureaucratique européenne? Embarquement immédiat pour Bruxelles, avec ce documentaire diffusé en avril 2014, vu du Berlaymont dans Sur les docks par Irène Omelianenko.
Oui, bonjour monsieur, la réception du Berlaymont. Il y a 4 visiteurs. Merci beaucoup. Voilà, on vient vous accueillir dans un instant.
Parfait, merci.
Si vous voulez bien vous inscrire déjà.
Alors, tu peux me donner ta carte d'identité?
Oui, bien sûr.
Combien de fonctionnaires travaillent ici?
2700.
2700. Et pour la commission dans son entier?
Alors là, je crois que c'est en... Je n'ai aucune idée, mais je pense que ça doit être pas loin. Probablement plus de 40 000, 60 000. Ou j'exagère, mais... S'il vous plaît.
Bonjour. Bonjour, Frédéric Vincent, bienvenue, bonjour. Comment on fait? C'est par là qu'on passe.
Vue du Berlaymont, l'écriture d'un pouvoir européen.
L'objet de la directive en suédois, ça donnerait article 1, mål. Målet för detta direktiv är att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar om ingredienser i och utsläpp från tobaksvaror och därmed sammanhängande rapporteringsskyldigheter, inklusive högsta tillåtna utsläpp av tjära, nikotin och kolmonoxid från cigaretter. Et donc en français, c'est donc article premier, objet. La présente directive a pour objet de le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant A. Les ingrédients et émissions des produits de tabac et les obligations de déclaration connexes, notamment les rendements maximaux des cigarettes en goudron, nicotine et monoxyde de carbone. B. L'étiquetage et le conditionnement des produits de tabac, notamment les avertissements sanitaires devant figurer sur les unités de conditionnement et sur tout emballage extérieur, ainsi que les dispositifs de traçabilité et de sécurité visant à garantir le respect de la présente.
Usine à fantasmes, eurocratie, bouc émissaire, euroscepticisme, opacité de la décision, projet en berne. Dans la bouche de nombre de nos contemporains, les mots se bousculent lorsqu'il s'agit d'évoquer le fonctionnement politique d'une Europe dont les turiféraires se feraient les avocats du diable, tandis que ses contempteurs crient « haro sur le baudet ». Autant dire que le sens commun l'emporte fréquemment, convoquant clichés et stéréotypes. L'Europe vue à Bruxelles, c'est d'abord un quartier. En son cœur, le Berlaymont, épicentre de la Commission européenne. Désamianté et rénové à grands frais, l'immeuble ressemble au navire amiral d'une flotte institutionnelle de bâtiments disséminés plus discrètement dans le reste de la ville. C'est au Berlaymont que s'écrivent les directives avant qu'elles ne soient discutées au sein du Parlement européen. Le 26 février 2014, ces députés ont approuvé à une très forte majorité un texte consacré aux produits du tabac. Fruit d'âpres négociations qui renvoient tout autant au jeu des lobbies qu'à la multiplicité des transactions présidant à l'élaboration d'une législation qui s'imposera aux 28 États membres de l'Union, la nouvelle directive tabac est à bien des égards emblématique de la fabrication de la norme entre gestion des intérêts particuliers et défense de l'intérêt général, production d'un consensus et orchestration polyphonique du pouvoir. Par-delà l'aridité du texte, il y a un lieu, des univers et surtout des hommes et des femmes qui y travaillent parce qu'ils sont des maillons de la chaîne et ou parce qu'ils ont le feu sacré.
Le quartier européen tel que vous le voyez maintenant n'a plus rien à voir avec le quartier européen ce qu'était ce quartier jusqu'aux années 50, 60 ici. D'ailleurs, quand vous voyez des photos de ce qu'était ce quartier dans les années jusqu'aux années 50, c'était un quartier bruxellois classique, maison pas très haute. Alors quand vous parlez avec des Bruxellois, ils vous disent que l'installation de la Commission européenne et d'autres institutions a profondément bouleversé le paysage architectural bruxellois, c'est vrai. Mais en même temps, ça fait qu'on parle beaucoup de Bruxelles dans le monde entier. Donc, faut faire un choix. Donc, effectivement, je crois qu'il y avait effectivement un béguinage, je crois, ici jusqu'aux années 50. Et le bâtiment, une fois que le siège de la Commission européenne a été décidé à la fin des années 50, savoir qui vraiment a fait que ça serait Bruxelles, et tout un débat historique sur le sujet. Donc, ce bâtiment a été construit. Je ne sais pas à quelle époque. La Commission européenne en tant que telle s'est installée dans ce bâtiment, il faudrait vérifier. Mais il faut savoir qu'au début, tout le monde était là. Toute la Commission européenne était dans un seul bâtiment. Et puis, l'Europe grandissant, etc., le quartier européen a pris de l'ampleur. Et maintenant, les différentes directions générales sont installées dans différents bâtiments. Parfois, certains sont un petit peu éloignés. Vous avez même des services qui sont plus que décentralisés. Enfin, ils sont même en dehors de la Belgique. Vous avez des services qui sont aussi au Luxembourg, dans le cas santé consommateur pour lequel je travaille. Il y en a même en Irlande. Il y a même un service qui est en Irlande. Donc, on est un peu éclaté.
Et vous diriez que le lieu du pouvoir, il est ici, au Berlaymont ?
Pour la Commission européenne ?
Le lieu du pouvoir européen. Comment vous le définiriez ?
Là, vous rentrez dans un débat. Qui a le pouvoir en Europe ? Est-ce que c'est le Parlement européen ? Est-ce que c'est le Conseil européen ? Est-ce que c'est la Commission européenne ? C'est un équilibre. Mais la Commission européenne a deux rôles clés. C'est nous qui proposons les textes et c'est nous qui vérifions qu'ils sont bien appliqués. Donc on a le pouvoir d'initiative et après on contrôle. Et éventuellement, on traîne les États membres dans la Cour de justice si, par malheur, ils ne respectent pas des règles qu'ils ont eux-mêmes agréées. C'est ça qui est assez drôle, généralement. C'est que les États, souvent, ne respectent pas des règles qu'ils ont eux-mêmes soutenues et votées.
Je suis suédois. J'ai passé pas mal de temps en Espagne. J'ai vécu en Espagne. Et j'ai appris énormément de choses, de cette différence de perspective qu'on a de l'Espagne aux choses. Et, par rapport à la Suède, mais en même temps, si je compare avec mes expériences, par exemple aux États-Unis, dès qu'on sort de l'Europe, on se rend compte, au moins je me rends compte, qu'il y a quand même des valeurs européennes que je pense qu'on partage. Et donc, c'est ça la richesse, l'intérêt de faire comprendre qu'en fait, on a pas mal de choses en commun, et peut-être il y a des choses à faire ensemble. Moi, je travaille ici à la traduction, et c'est vrai qu'on a peut-être tendance à oublier le rôle clé qui occupe la traduction dans le processus décisionnel, c'est vrai. Concrètement, il faut quand même revenir un peu en arrière, et se poser la question, pourquoi traduit-on ? Et donc, il y a des raisons juridiques, et il y a des raisons politiques. Juridiquement, on traduit parce qu'on est obligé de le faire. Le premier règlement de 1958 établit que tout acte contraignant, tout acte de portée générale, doit être rédigé dans toutes les langues. Donc c'est une obligation. Mais cette obligation, évidemment, existe parce que il est peu probable que les États membres auraient accepté de céder un peu de la souveraineté pour travailler ensemble de façon un peu supranationale si et il n'y a pas des textes dans les langues des pays. Donc, c'est vraiment essentiel. En plus, au fur et à mesure, on a élargi la coopération à de plus en plus de domaines politiques. On a aussi approfondi la coopération. Et cette évolution requiert aussi qu'on traduise tout ce qu'on fait pour expliquer aux citoyens ce qu'on fait pour avoir une approbation. Je voudrais aussi mentionner toutes les initiatives qu'on a eues dans le domaine de la transparence pendant 20 ans. Disons, comment sauver la distance entre les citoyens et l'Union européenne? Comment faire en sorte que les citoyens s'intéressent pour l'Europe, qu'ils participent dans les processus politiques de l'Union? Disons, tous ces objectifs politiques passent à travers la traduction dans toute langue. Donc, les traductions, c'est vraiment l'interface entre l'Union européenne et les États membres et les citoyens.
Märkning och förpackning av tobaksvaror, inbegripet hälsovarningar som ska finnas på styckförpackningar med tobaksvaror och eventuella ytterförpackningar.
Quand les directives par exemple de la commission arrivent, elles arrivent en quelle langue?
Aujourd'hui, c'est presque toujours en anglais. Quand moi j'ai commencé il y a 15 ans, il y avait 50% de textes qui arrivaient en français et 35% en anglais. Mais maintenant, depuis le grand élargissement et toutes les nouvelles langues, dizaines d'années, et on travaille presque uniquement en anglais. Donc normalement, les textes arrivent en anglais et on traduit donc dans toutes les autres langues. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de aussi partager des informations pendant la traduction. Donc tous les traducteurs qui travaillent sur un dossier échangent ces informations dans une base de données liée au document. Comme ça, on peut poser des questions, s'adresser à l'auteur pour demander des clarifications. Et on essaie de partager ça entre tous afin d'assurer que toutes les versions linguistiques disent la même chose. Dans notre contexte, disons, on produit de la législation multilingue. Il est extrêmement important d'être précis. Il est extrêmement important que les documents disent la même chose dans le sens où les effets juridiques doivent être les mêmes dans toutes les langues. Donc, il faut que les textes soient interprétés et appliqués de la même façon, de la façon uniforme, dans 24 langues et dans 28 systèmes juridiques différents. Ça a tendance à pousser vers un style de traduction assez littéral. Mais de là à dire que le traducteur ne doit pas interpréter le texte, qui est un argument qu'on entend souvent, c'est pas tout à fait réaliste, parce que pour pouvoir traduire, il faut comprendre. Donc il faut interpréter. Mais il faut toujours avoir ça en tête, que c'est un équilibre très difficile qui requiert énormément de concentration et expérience.
Quand vous dites autour de vous que vous travaillez au Berlaymont, comment réagissent les gens ?
Non, travailler au Berlaymont, ça veut dire que oui, effectivement, vous êtes un peu plus proche, presque physiquement, mais vous pouvez travailler au Berlaymont sans avoir un input forcément concret sur des dossiers les plus chauds. Je pense pas. C'est vrai qu'il y a peut-être une image Berlaymont. Et d'ailleurs, si vous regardez le logo de la Commission européenne qui se trouve sur votre passe, c'est le Berlaymont qui se trouve dessus. Donc, dans la... Comment dire, notre belle langue, le branding de la Commission européenne s'est fait avec le Berlaymont, ce qui est un signe. Hein, ça montre bien qu'effectivement, pour la Commission européenne, notre navire de croisière, entre guillemets, notre paquebot, voilà, c'est le Berlaymont. Mais de nouveau, sur la substance, les milliers de personnes qui travaillent dans les services ont une importance cruciale.
On continue la visite.
C'est vraiment remarquable, parce qu'il parle deux langues. Il parle une langue très politique, très en prise avec la Commission. Moi, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Mais il a, je le dis, vous avez une subtilité, dire vous pouvez dire les choses les plus dures avec le sourire et la nuance.
Ah si, si. C'est mon boulot.
je le dis. Vous savez, quand vous avez 30 ans de Commission, c'est quand même pas inutile. Une anecdote quand même, deux anecdotes. Sur le Parlement européen, vous savez très très bien que derrière, il y avait quand même quelques excès budgétaires, pour ne pas dire autre chose, d'un ancien président du Parlement européen. N'allons pas plus loin. En 1960, vous le savez, quand Hallstein devient le premier président de la Commission européenne, Il y a une contrepartie entre l'Allemagne et la France. Vous savez laquelle ? C'est un Allemand qui me l'a dit et qui était dans son cabinet. La contrepartie, c'est que l'organisation de l'administration de la Commission européenne fut faite sur le modèle français. Et donc, la relation mercredi matin, quand les commissaires se réunissent ici, le Conseil des ministres a lieu encore en France. Nous vivons une période exceptionnelle, plus que de transition. L'État est en crise, mais la nation européenne est en train de se construire de manière irréversible.
Vous le croyez, sincèrement ?
Profondément.
Profondément ?
Profondément. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que vous avez la mondialisation. Que pèse la France par rapport à l'Inde ? Que pèse la France par rapport à la Chine ? Plus rien. Et de moins en moins encore. Alors, bien sûr, que faire ensemble ? Alors, les Allemands vont devoir faire sortir de l'orgueil et retrouver la modestie avec tout le monde. Parce que la zone euro, ça a du sens. Mais ça, c'est une autre affaire. Je vous laisse.
Vous en pensez quoi, Frédéric Vincent ? De ce qui vient d'être dit ?
J'en pense beaucoup de choses, mais je ne suis pas d'accord.
Vous êtes dans quel...
Je suis porte-parole santé, ici. Je travaille pour le commissaire.
Vous savez, Sanko, la DG Sanko, fut créée dans le contexte de la crise de la vache folle. Mais ça, c'est une autre affaire.
Là, on quitte le Berlaymont, qu'on laisse sur notre gauche pour filer vers la DG, la Direction Générale Santé Consommateur, la DG Sanko.
Bonjour, Madame Testori.
Bonjour.
Donc, je suis le directeur général de la santé et des consommateurs de la Commission européenne. Donc, je suis une fonctionnaire et j'ai fait une grande partie de ma carrière dans les institutions européennes. J'ai joint les institutions européennes plus ou moins à 30 ans. Je suis italienne, née à Milan, et j'ai passé toute ma vie en vivant vraiment une vie nationale à Milan. J'avais étudié à Milan, travaillé dans l'administration régionale. Et seulement vers 30 ans, je suis venue à Bruxelles un peu par hasard. C'est-à-dire, j'étais attirée aussi par l'Europe, mais aussi parce qu'on avait décidé avec mon mari de se transférer à Bruxelles. Donc, on s'est transférés ensemble. Et là, à 30 ans, j'ai commencé ma carrière. Je suis rentrée dans la commission, vraiment dans les niveaux les plus bas, parce que je suis rentrée comme stagiaire. Et après, j'ai franchi un peu tous les pas jusqu'à arriver à être directeur général de la santé des consommateurs. Je pense avoir beaucoup de chance parce que je travaille dans un domaine que je connais, parce que j'ai une préparation scientifique, donc je suis une écotoxicologue. Donc je pense que j'arrive à donner le mieux de moi parce que je connais vraiment les secteurs de la santé et de l'environnement. Si on réfléchit, on pense que depuis que n'importe quel citoyen s'élève, du moment où s'élève le matin, il utilise des savons, il utilise des dentifrices, il s'habille, il prend peut-être des médicaments, il conduit dans une voiture, donc tout ce qui concerne la sécurité, les contrôles des produits, ce qu'il mange, il va à table, il prend les petits déjeuners. Tout ça est réglementé au niveau européen. Il est réglementé au niveau européen surtout parce qu'il y a un marché intérieur. Et grâce à ces marchés intérieurs, il y a, disons, tous des produits et des services qui circulent. Et surtout, tous ces produits et services qui circulent lui offrent un niveau de sécurité élevé.
Un bureau, je sais pas, il doit y avoir quoi, 15 mètres carrés, voilà, une petite table de travail, un bureau, un ordinateur, une télévision, une grande plante verte que j'ai héritée de ma prédécessrice dans ce bureau, qui m'a aussi laissé un tout petit canapé qui me sert à stocker les documents, et au mur, voilà, des cartes postales et des affiches de cinéma d'artistes qui me tiennent à cœur. Et quelques bouquins... Autre que des bouquins de boulot pour
Caravage,
pour me changer l'esprit.
Paul Venn.
Voilà.
Est-ce que vous pourriez nous décrire schématiquement le cheminement d'une directive ?
Mm-hmm.
qu'une directive, c'est une loi européenne. On essaie de plus en plus d'utiliser cette expression, loi européenne. Donc il y en a des centaines, il y en a même des milliers, notamment des dizaines et des dizaines de directives qui ont réalisé ce qui s'appelle le marché intérieur, hein, le fait que de Dublin à Thessalonique et de Helsinki à Porto, on a des produits qui parfois se ressemblent, des règles de plus en plus communes, etc. Donc une directive européenne, c'est une loi européenne qui établit plus ou moins dans le détail des règles qui vont s'appliquer ensuite au niveau national. Alors à l'origine d'une directive européenne, il peut y avoir plusieurs choses, la volonté d'harmoniser quelque chose, par exemple au départ. Et dans le cadre de la directive tabac sur laquelle vous travaillez, si cette directive, cette loi européenne a été revue, c'est que la précédente datait. Et elle datait de 2001. Et la directive de 2001 avait, par exemple, supprimé dans toute l'Union européenne les mentions light, mild qu'on avait sur les paquets, qui étaient trompeuses pour le consommateur qui avait la mauvaise idée de fumer. Ça avait permis aux États membres qui le souhaitaient de mettre des photos, par exemple, pour avertir les consommateurs des conséquences du tabagisme. Mais cette directive datait, elle avait donc une dizaine d'années. L'industrie du tabac est une industrie avec une imagination incroyable, donc vous aviez tout un tas de nouveaux produits qui étaient arrivés sur le marché avec des nouvelles saveurs, etc. Donc est apparue au niveau européen parce que nous recevions des demandes d'hommes et de femmes politiques européens, parce que des ONG nous le disaient et parce qu'on voyait bien qu'il y avait des problèmes de marché intérieur, hein, de produits qui différaient de plus en plus d'un État membre à un autre, qu'il fallait de nouveau légiférer sur le sujet et de nouveau proposer une directive. Donc la directive a été élaborée sur plusieurs années et généralement quand on établit, quand on met en place, quand on prépare une directive de ce style, on consulte beaucoup. Donc la Commission européenne a consulté et aussi a travaillé en interne pour revoir ce texte.
Det gränsöverskridande distansförsäljning av tobaksvaror, E anmälningsskyldighet för tobaksvaror av ny typ, F utsläppande på marknaden och märkning av vissa produkter som liknar tobaksvaror, nämligen nikotinprodukter och örtprodukter för rökning. I syfte att få den inre marknaden för tobaksvaror och liknande produkter att fungera bättre med en hög hälsoskyddsnivå som utgångspunkt.
La Commission européenne propose, les États membres et le Parlement européen disposent. Voilà. Donc on a proposé ce texte. Les ONG anti-tabac ont dit « Ah, c'est pas possible, c'est pas assez ». L'industrie du tabac a dit « Mais c'est une horreur ce que vous voulez nous faire faire ». Donc on peut présupposer que le texte qui avait été proposé par nous était plutôt équilibré. Mais ensuite, on est parti sur 15 mois de négociations acharnées entre États membres, donc Conseil des ministres de la Santé et le Parlement européen, pour arriver à un texte qui a effectivement été approuvé de manière définitive le vendredi 14 mars. En un temps record, 15 mois, ce qui est très 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 rapide pour un texte comme cela. On aurait pu s'attendre à ce que les négociations durent beaucoup plus longtemps. Mais là, nous avons été aidés par... Il y a eu beaucoup d'intervenants, mais si je devais, là où je suis, en signaler deux, ça serait la présidence irlandaise de l'Union européenne au premier semestre 2013. Donc la Commission européenne a proposé son texte fin décembre 2012, 1er janvier 2013, début de la présidence irlandaise de l'Union européenne. Donc la première présidence du Conseil qui reçoit le dossier est un ministre irlandais de la Santé très intéressé par ce dossier, pour des raisons personnelles, je crois même d'ailleurs. Et donc il a mené les négociations tambour battant, et à la fin de la présidence irlandaise, il y avait déjà un premier accord au niveau des ministres de la Santé. Au Parlement européen, une députée, Mme Linda McAvan, qui était la rapporteuse sur ce dossier, a là aussi mené les négociations tambour battant, non sans quelques difficultés internes au Parlement européen, sur lesquelles je ne me prononcerai pas, mais in fine, on est arrivé à un texte qui a été adopté en un temps record. Alors, effectivement, ce n'est pas le texte qu'avait proposé la Commission européenne au départ. On avait proposé que les avertissements santé couvrent 75% de la surface. On est à 65%. Ce n'est pas si mal que ça. Et beaucoup de discussions se sont aussi focalisées sur la cigarette électronique, qui est apparue très vite comme un enjeu, comme un sujet de discussion très, très fort entre...
Pourquoi justement ?
Parce que c'est un marché en plein développement.
Nous sommes un système politique et institutionnel assez complexe. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a maintenant les 28 pays États membres qui participent au processus décisionnel. Il y a les parlements européens qui, lui aussi, représentent, disons, les pouvoirs démocratiques. Donc, il y a une variété énorme des opérateurs industriels, des ONG, des intérêts, des patients, des citoyens. Donc, la situation, disons, est complexe à gérer par les intérêts et aussi par la nécessité de prendre en compte les différentes positions. Les seules, disons, valeurs qui guident nos travaux, c'est la protection des intérêts des citoyens. Dans les domaines du tabac, comme dans les autres domaines, la Commission commence un travail quand il y a des demandes qui sont exprimées. Des demandes qui sont exprimées, dans ces cas, c'est des demandes qui sont exprimées par les ONG, qui représentent la lutte contre le tabac, par les parlements, par les États membres. Donc, en 2010, on lance une consultation publique sur les questions qu'il fallait revoir, quelles étaient les nouvelles évidences scientifiques. Donc, une vraie large consultation scientifique, ouverte. Nous, on lance, on fait un document avec une série de questions ouvertes et on permet à tous les acteurs de répondre. Donc, c'était vraiment ouvert. On a été submergé par 90 000 réponses. C'était surtout les producteurs de tabac, les distributeurs de tabac. Et après, nous avons commencé l'évaluation d'impact. Et finalement, on arrive à juillet 2012, où les comités internes nous acceptaient notre évaluation d'impact. Et à ce moment-là, nous avons commencé, toujours au niveau interne, à rédiger la proposition, discuter et négocier avec les autres départements de la Commission qui représentent d'autres intérêts.
Now I would like to move to Professor Michel Wallon. Michel Wallon is in the
La Direction générale santé et consommateurs, nous sommes plus ou moins un millier de personnes et qui travaillent dans le domaine du tabac, il y a une dizaine donc dans le domaine du tabac. Il n'y a pas que la directive. Comme je dis, il y avait deux, trois personnes qui ont travaillé, je dirais presque 100%, au moins pour certaines périodes, sur la directive tabac. Mais dans le domaine du tabac, nous avons une panoplie de mesures. Il n'y a pas que la directive sur les produits de tabac. Le travail d'un fonctionnaire européen, c'est un travail qui consiste beaucoup dans la consultation. Nous discutons avec les États membres. Il y a des réunions, donc je ne dis pas chaque semaine, mais chaque mois, nous avons une réunion, je fais des exemples, une réunion avec les experts des États membres. Donc, les experts des 28 pays viennent ici, on s'est réunis et on discute, par exemple, les mesures sur les produits de tabac. Il y a beaucoup de réunions avec les parlements européens. Donc, nous avons des réunions régulières avec les différents parlementaires, avec la commission parlementaire. Il y a, après, comme je dis, des réunions avec les ONG, les organisations des patients, les représentants des intérêts industriels. Donc, il y a, disons, sur une semaine, il y a déjà au moins deux ou trois jours qui sont occupés pour tous ces contacts. Après, il y a des discussions internes, donc des réunions avec moi, des réunions avec les commissaires, avec les cabinets du commissaire. Et après, il y a le travail que les fonctionnaires font tout seuls devant sa machine et son computer pour écrire et pour condenser toutes les connaissances et les commentaires et les positions qui sont apparues pendant toutes ces périodes de consultation.
Et qu'est-ce qu'un bon texte ?
Qu'est-ce que c'est un bon texte ? Un bon texte, c'est un texte, d'abord, un texte qui donne des dispositions compréhensibles par les 28 pays, qui peuvent être appliquées et qui peuvent être appliquées de façon harmonisée. Donc, un bon texte, c'est un texte qui ne se prête pas à des différentes interprétations, mais qui assure qu'au niveau européen, il y a les mêmes traitements pour ces produits réglementés, donc un traitement qui soit harmonisé.
On monte à quel étage ?
11e.
11e.
C'est par ici.
D'accord. Le 11e étage, c'est l'étage de la DG Sanko ?
C'est le cabinet du commissaire Borch.
C'est le cabinet du commissaire Borch. Très bien, effectivement. Merci. Vous travaillez au sein du cabinet ?
Oui, je suis une assistante.
Vous êtes assistante de Mme Duarte
Duarte Gaspar.
Depuis, oui. Depuis longtemps
Même pas un an.
Donc, il faut un badge pour pouvoir accéder à cet étage.
Oui, oui, tous les étages.
Tous les étages, il faut un badge.
Oui, parce que c'est des cabinets de commissaires, donc.
Vous venez d'où ?
Malte.
D'accord. Oui,
on est beaucoup de Maltais, bien sûr.
Dans le cabinet,
dans le cabinet du commissaire maltais, oui.
Ça s'explique comment ?
Ben. Non, je te dis. Voilà, alors c'est ici.
Merci d'être venu, vous êtes à trois, alors on va vous installer.
Merci de vous accueillir.
Vous étiez toute la matinée à la conférence?
On est arrivé à 11h,
okay.
On en revient, c'était impressionnant de voir autant de monde.
Il y avait beaucoup de monde.
Il y avait combien de personnes à peu près?
430. Cette conférence, c'est une de nos initiatives pour mettre l'accent sur le besoin d'améliorer la situation en Europe, où nous constatons que, malgré tous les efforts des États membres, il y a des importantes inégalités en matière de santé. Et c'est sur cela, c'est vraiment un des objectifs, une des priorités de M. le commissaire Borges. Il a voulu donner une opportunité aux ONG de se manifester devant les ministres. Il a voulu vraiment mettre dans la même salle, pas seulement la grande conférence que vous avez vue ce matin avec 400 personnes, mais dans des petites salles que nous aurons cet après-midi, donc un peu des workshops, de vraiment asseoir à la même table un ministre, un député ou une députée et les ONG et essayer de définir ensemble qu'est-ce que nous devons faire de plus, qu'est-ce que nous avons déjà fait, qui a bien marché, où sont les problèmes et qu'est-ce que nous pouvons faire de plus.
Cela fait partie de votre travail quotidien que d'être dans ces conférences. Si on regarde votre agenda de la journée, ça commence à quelle heure?
J'en ai dit.
Vous commencez à quelle heure et puis vous terminez à quelle heure?
Oui, ça va vous choquer parce que parfois on pense les gens dans la Commission européenne, ils travaillent pas beaucoup, ils gagnent beaucoup d'argent. Alors, je vais vous raconter une journée type. Aujourd'hui, c'est une journée type. Je suis là à 7h30 au bureau tous les jours, parfois même avant. J'ai des collègues ici dans le cabinet qui arrivent plus tôt. Je suis pas la première. Les réunions parfois commencent à 8h du matin. Il y a souvent ce qu'on appelle des breakfast meetings ou des discussions où nous allons dans un centre de conférence et il y a un petit déjeuner de travail. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. La conférence a seulement commencé à 9h. Donc, entre 7h30 et 9h, c'est le temps de préparer la journée, de lire les briefings, de répondre aux emails, de m'assurer que la journée est sous contrôle. Et puis il y a une autre réunion sur des sujets complètement différents. Ça peut être l'obésité, le tabac, ou les menaces transfrontalières en matière de santé. Et puis très souvent, il n'y a pas le temps de déjeuner comme aujourd'hui. Et puis là, à 1h30, nous avons une réunion avec des ONG sur un sujet complètement différent, donc accès aux soins de santé pour des personnes un peu plus défavorisées. Et puis nous continuons avec un débat de 2 heures sur le sida. Et puis la journée continue. Et très souvent, il y a encore des débats et des dîners, des conférences le soir ou des tables rondes. Donc la journée finit quand la journée finit. Donc, chaque commissaire a un cabinet. Et dans chaque cabinet, il y a normalement 6 membres de cabinet. Chaque membre est responsable dans un certain nombre de domaines. Dans mon cas, c'est la santé publique, c'est très vaste. Mon rôle, c'est de conseiller le commissaire sur le travail d'à peu près 9 unités, donc toutes les unités qui s'occupent de la santé publique. C'est de l'aider, de le soutenir.
9 unités, combien de fonctionnaires? Vous avez une idée à peu près?
200 quelque chose. Mm-hmm. Et donc, c'est aussi d'être entre le commissaire et la direction générale, et aider la direction générale, soutenir le commissaire, s'assurer aussi à la fois que les priorités du commissaire sont bien comprises et bien suivies par la direction générale et aider la direction générale dans le travail de tous les jours.
Vous êtes un haut fonctionnaire européen. Vous direz que votre rôle est un rôle purement administratif ou est-ce que c'est aussi un rôle politique ?
Bon, est-ce que la Commission européenne a un rôle politique ? Ça, c'est une question intéressante dans le sens que le Parlement européen représente le peuple de l'Europe. Les membres du Parlement sont élus. Le Conseil représente les gouvernements nationaux. Et nous, nous sommes là entre les deux. La Commission européenne est par définition apolitique. Donc notre rôle, c'est de faire des propositions. Ayant écouté toutes les parties concernées, nous faisons les propositions législatives. Les législateurs sont le Parlement et le Conseil, et nous sommes là, entre les deux, pour essayer d'aboutir à un résultat, de former des compromis pour que les deux co-législateurs se mettent d'accord.
Pour le capable d'ici, Zoltan. On est à la conférence sur la santé.
Oui.
Qu'est-ce que vous êtes venu y faire aujourd'hui ?
Oui, donc c'est une expérience super intéressante. On a examiné les questions d'accès au système de la santé avec les officiers de DG Sanko. Commissaire Antonio Borch était ici. Et ce n'était pas une surprise que la question du tabac était aussi mentionné comme un facteur important de la santé. Donc, on a écouté les discours. On était aussi sur Twitter pour élargir la discussion. En dehors de cette salle, qui a regroupé plus ou moins 400 représentatifs de la société civile, des représentants des différents experts, et voilà. Je suis ici comme représentant de l'Alliance européenne de la santé publique, qui est une organisation parapluie, en représentant les différentes organisations de la santé, groupes des patients, tous qui ont un intérêt dans la santé publique.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un lobby ?
Oui, mais dans ce... Oui et non. Ça dépend de la définition du mot « lobby ». Et pour clarifier ça, je vous donne un exemple linguistique anglais. En anglais, il y a deux expressions ce qu'on utilise, « lobby » et « advocate ».« Lobby », dans ce contexte, veut dire, pour moi, représenter des intérêts privés. « Advocating », pour moi, ça signifie de représenter des intérêts publics. Dans ce champ-là, c'est assez indispensable aussi pour la Commission d'entendre des différentes opinions. Et nous sommes ici pour représenter les citoyens européens d'une façon indépendante. Donc dans ce champ-là, oui, nous sommes des partenaires pour la Commission et on est ici pour être sûr que les intérêts européens et des citoyens européens vont être représentés par rapport aux intérêts privés de l'industrie du tabac.
Moi, je travaille ici depuis... Ouh là là, ça va faire 20 ans en juin. Et c'est très difficile pour moi d'expliquer à ma famille ou à mes amis au Portugal qu'est-ce que je fais exactement, qu'est-ce que l'Europe fait. Le Portugal est devenu membre de la communauté européenne à l'époque, dans les années 80.
Début
donc,
des années
87. Donc, quand moi j'ai fini mes études universitaires, c'était encore quelque chose d'assez nouveau. Moi, je l'ai vu comme une opportunité assez intéressante. C'est l'Europe, c'est le futur. Moi, j'avais une maîtrise en sciences politiques et relations internationales. Et c'est comme ça que je suis venue au Collège d'Europe à Bruges pour faire des études en politique européenne pour encadrer la Commission européenne. Comme j'avais vécu au Japon, j'ai commencé ma carrière à la Commission en tant que stagiaire dans l'unité relations avec le Japon. Et puis, j'ai fait 4 ans dans des sociétés de consultants, ici à Bruxelles. Ça m'a pris un certain temps pour passer un concours. Et après, il faut entrer à la commission en tant que fonctionnaire. Et je suis devenue fonctionnaire en 1999 à la Direction Générale Industrie et Petites et Moyennes Entreprises, où j'ai travaillé pendant 5 ans. Et à la Commission européenne, on encourage énormément le gens à se diversifier. Et puis, on m'a invité à venir travailler au cabinet du nouveau commissaire quand le mandat, ce mandat-ci, a commencé en février 2010. Et voilà.
Si on en vient à votre parcours, vous êtes à Bruxelles depuis combien de temps et pourquoi travaillez-vous à l'EFA et non pas à la commission, par exemple ?
C'est une bonne question. Moi, je suis venu juste en 2011 et pour comprendre ma carrière personnelle, donc je suis un droit, je suis juriste. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans une cour nationale en Hongrie. Après, j'ai fait un stage à la cour de l'Union européenne à Luxembourg. Et après ça, j'ai travaillé pour le ministère de la Santé en Hongrie, dans l'unité des affaires européennes. Et après ça, pour les raisons familiales, simplement, je suis venu à Bruxelles. Ma femme, par exemple, elle travaille pour le Parlement européen comme fonctionnaire, donc je vois bien comment ça fonctionne dans les institutions européennes. Et j'ai travaillé aussi dans une administration nationale. Mais maintenant, je choisis de joindre EFA. Je pense que je représente aussi des intérêts publics, mais d'une façon différente. Donc, je vois vraiment que les ONG ont un rôle fort ici en Europe. Mais on ne sait jamais, peut-être dans 10 ans, on va avoir une similaire conversation quand je vais travailler pour les institutions. Et ici,
ce sera un souhait?
Je ne suis pas sûr. Je ne peux pas exclure parce qu'il y a des avantages, mais aussi il y a des. Avant tout, le salaire et la stabilité personnelle. Il faut être sincère sur ça. Mais autrement, je pense qu'il n'y a plus liberté quand on travaille en dehors des institutions. Les formalités sont plus faibles. Nous sommes plus libres d'organiser nos travaux. On peut être plus inventif. Donc, brièvement, je trouve ce travail, disons, plus intéressant. Il y a plus de défis professionnels et juridiques pour moi. Donc, c'est toujours une balance des différents arguments et intérêts. Et bon, on va voir.
Y a-t-il des moments où, en tant que citoyen, on n'est pas d'accord avec une directive, on n'est pas d'accord avec une décision, et en même temps, on va être le maillon qui va aussi faire fonctionner la machine administrative?
Mais ça peut arriver n'importe où dans une société aussi, que parfois vous n'êtes pas nécessairement d'accord. Ça, c'est pas quelque chose d'unique à la Commission européenne.
Bien sûr.
Mais la question se pose. Dans n'importe quel ministère en France. Mais ça m'est jamais arrivé. Donc,
mais si ça vous arrivait, quelle est la part du libre arbitre?
C'est un peu difficile de vous dire qu'est-ce que je ferais si ça m'arriverait. Je pense que j'exprimerais mon opinion et comme dans n'importe quelle autre administration, s'il y a un désaccord important, la décision est faite par voie hiérarchique. Mais ça ne m'est jamais arrivé.
Et la question de la légitimité, qu'est-ce qui fait qu'on se sent légitime pour participer à la construction de la décision ?
Qu'est-ce qu'un conseiller d'un ministre en France, dans un État membre, quel est son besoin de légitimité? Qu'est-ce que vous diriez de ça? Si vous êtes quelqu'un qui a travaillé dans le domaine pendant beaucoup d'années et vous avez passé toutes les étapes nécessaires et plus que les nécessaires, vous avez à la fois les connaissances techniques, l'expérience, vous êtes même fonctionnaire, pourquoi est-ce que la question de légitimité se pose? Vous êtes conseillère ou conseiller des ministres, vous êtes là parce que, bon, vous avez peut-être 15-20 ans de carrière que vous en faites arriver là. Je ne vois pas pourquoi la question de légitimité se pose. Mais je suis fonctionnaire, donc je suis là pour servir la Commission européenne. Ou la Commission européenne voudrait que je la serve. ça peut être dans une direction générale, ça peut être le cabinet d'un commissaire.
Maintenant, j'habite en dehors de Bruxelles, en Wallonie, et je prends le train. Et ça aussi, c'est assez important ici parce que les trains sont presque sous nous, nos pieds maintenant. Il y a une station de train qui est bien cachée sous la construction. Et en train, c'est 2 minutes, on peut aller, entre le Schuman et le Parlement européen où on va aller à pied. Ici, le bâtiment principal, le bâtiment le plus grand, qui s'appelle bâtiment Altiero Spinelli, qui est un député européen, italien à l'époque. Et il y a partout des ponts qui font la connexion entre différents bâtiments.
C'est immense, hein, quand, oui. On, quand on voit cela, l'esplanade, là, c'est, oui. Il y a quelque chose d'énorme, de massif, d'impressionnant.
Oui. En face du bâtiment Altiero Spinelli, c'est le bâtiment Willy Brandt. Willy Brandt était le
chancelier.
Oui, chancelier de l'Allemagne. Et le bâtiment troisième, c'est le bâtiment Józef Antal, qui était un premier ministre hongrois, juste après la chute du communisme.
Là, on vient du quartier du Berlaymont, de la conférence sur la santé. On a fait 1 kilomètre pour arriver au Parlement européen. On a mis 1 demi-heure à y entrer parce que les accréditations, les sas de sécurité, les escalators. On a rendez-vous au 8G309. C'est pour rencontrer Michèle Rivasi, qui est députée européenne du groupe Europe Écologie Les Verts.
Désolé, ce fut un véritable parcours du combattant.
Ah, pour venir jusque-là, c'est ouais. Ça. C'est vraiment ici.
C'est une forteresse.
Oh, forteresse, je sais pas, protection. Écoutez, on est mieux protégé au Parlement que dans une centrale nucléaire, hein? Puisqu'on pénètre aussi facilement dans une centrale.
Hein? C'est ce qu'on a cru comprendre ce matin.
Très bien. Michèle Rivasi, la directive tabac a été adoptée le 26 février dernier par le Parlement européen. Dans la presse française, on n'en a pas beaucoup parlé de cette adoption par le Parlement, alors qu'on avait parlé de la directive elle-même, de la cigarette électronique. Comment ça se fait ?
Mais comment ça se fait ? Parce que je trouve qu'il y a un déficit d'information entre ce qui se passe au Parlement et ce qui se passe en France. 80% des directives qui touchent à l'environnement et à la santé proviennent de l'Europe. Donc là, il y a un très fort déficit. D'autant plus que l'objectif de cette directive, c'était de diminuer la consommation pour les jeunes de 4%. Donc, vous voyez, c'était pas... Mais alors, écoutez, moi qui suis rapporteur dans de très nombreuses directives, j'avais jamais vu, comment dire, une telle pression exercée par les lobbies, notamment le lobby du tabac, qui ont une organisation assez incroyable. D'abord, les lobbies, ça joue à plusieurs niveaux. Je trouve que cette directive tabac, elle est très pédagogique, parce que les lobbies ont commencé par la commission. On a vu le cas, quand même, du commissaire M. Dalli. Alors, ce commissaire Dalli, c'était absolument pas mon copain, dans la mesure où c'était quelqu'un qui était très proche des lobbies pharmaceutiques. Pour vous dire, comme je m'occupe de la santé dans le cadre du groupe Vert, il avait reçu la médaille des bons services rendus aux laboratoires pharmaceutiques. Et à ce titre-là, je lui avais dit, écoutez, monsieur Dalli, vous êtes commissaire de la santé et vous allez recevoir une médaille pour bon service rendu au laboratoire pharmaceutique. Mais vous êtes où ? Ah oui, il me dit, mais moi j'étais tout fier. Vous voyez ? Non, mais... C'est-à-dire qu'il ne voyait pas trop le problème des conflits d'intérêts, lui. Bon. Là-dessus, j'apprends que Dalli a été viré en 10 minutes. Et que qui était derrière pour virer Dalli, c'était l'industrie du tabac. Parce qu'il avait un assistant qui avait soi-disant reçu de l'argent ou voulait recevoir de l'argent. En fait, lui, il était pour rien. Mais en faisant ça, moi je disais la question fondamentale, à qui profite le crime ? Le fait de virer Dalli, il fallait nommer un autre commissaire. En nommant un autre commissaire, ça faisait perdre du temps, puisque là après, vous savez, il y a encore plein de réunions intercommissions avant de choisir un autre rapporteur. Et je me suis dit, mais c'est le lobby du tabac qui a gagné.
Je suis Linda McEwan, députée européenne de la Grande-Bretagne pour le Parti travailliste et au Parlement membre du groupe social et démocrate.
Linda McEwan, la directive tabac a été adoptée le 26 février dernier par le Parlement européen. Est-ce qu'on peut dire que le Parlement européen est l'auteur, est un auteur de cette directive ?
Oui, dans le système européen, il y a 3 auteurs de chaque directive ou loi. La Commission européenne, c'est elle qui met sur la table une proposition de loi. Mais une fois sur la table, les gens qui décident, les personnes qui décident, ce sont des élus au Parlement européen, des députés européens et des ministres nationaux. Donc, la proposition tabac, elle venait d'abord dans une commission parlementaire où il y avait plus de 1400 amendements déposés par les députés. Donc, moi, je suis le rapporteur. Donc, le rôle du rapporteur, c'est de trouver les compromis au sein de la commission parlementaire qui vote en premier lieu. Une fois voté au Parlement en commission au mois de juillet, on devait après aller à la plénière. Et puis, il y avait beaucoup de tentatives de reporter le vote.
De la part de qui ?
De certains députés.
Pourquoi ?
Parce que je crois qu'il y en avait qui ne voulaient pas de cette loi. Et ils savaient que ce Parlement touchait à sa fin. Parce qu'on a une échéance électorale du 22 mai. Donc, si la loi ne passe pas avant, disons, mi-avril, parce qu'il faut passer par le Conseil, les ministres, il faut un accord. Ils savaient que si on perd du temps, on n'aurait pas la loi. Et puis, le nouveau Parlement a le droit de recommencer à zéro. Donc, il y a une tentative de certains de bloquer progrès. Mais finalement, ça n'a pas réussi. On devait voter au mois de septembre. On a voté finalement au mois d'octobre. Et puis, après le vote en plénière, on a ouvert les négociations avec le Conseil. Et là, on avait de la chance parce qu'il y avait la présidence irlandaise. Un autre élément compliqué dans l'histoire européenne. Les présidences du Conseil, cela veut dire qu'un État membre prend la présidence, préside les réunions du Conseil, des ministres. Et les ministres irlandais, qui avaient la présidence, première partie de 2013, voulaient absolument faire cette loi. Et on a trouvé un accord juste avant Noël, cadeau de Noël, directive tabac.
Écoutez, pour moi, la Commission, c'est absolument pas des parlementaires. C'est des gens qui défendent un intérêt.
Et ça ne peut pas être un intérêt général.
Écoutez, j'ai rarement vu, dans tous les dossiers que j'ai eus, pourtant j'en ai fait, hein, les plateformes pétrolières, les médicaments, l'agriculture, l'alimentaire avec les trucs. Pour moi, et ça c'est très grave, pour moi la Commission défend des intérêts privés.
Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne directive ?
Toute directive européenne a besoin d'un grand consensus. Dans mon pays, on a beaucoup d'euroscepticisme. On dit, oui, c'est Bruxelles qui impose les lois sur les citoyens. Et souvent, les gouvernements, quand il y a un problème, ils font semblant comme si cette loi n'a rien à voir avec eux. Ils ne disent pas au public qu'en réalité, on a des fonctionnaires qui travaillent à Bruxelles plein temps pour des années, des mois sur cette loi, qui font de l'influence sur la Commission avant la publication de la loi. Parce que la Commission européenne ne sort pas les lois comme ça. C'est parce qu'il y a des discussions au sein du Conseil européen. Donc les premiers ministres, les présidents de l'Europe, les leaders, eux, ils donnent la direction, l'orientation politique pour la Commission. La Commission sort la loi. Donc il faut un consensus.
Est-ce que la Commission est politique, la Commission européenne ?
Absolument, absolument, parce que la Commission, ce sont les hommes et femmes politiques qui sont nommés par le gouvernement. Donc, si c'est un gouvernement de droite, ils vont nommer un commissaire de droite. Si c'est un gouvernement de gauche, le contraire. Donc, la plupart des commissaires ont exercé des positions dans leurs pays nationaux et bien sûr, ils viennent avec toutes leurs idées politiques.
Quand on écoute pourtant les fonctionnaires européens, on a l'impression qu'il n'y a pas de politisation de la décision et que la décision est neutre. C'est du mensonge ?
Oui, les fonctionnaires, peut-être ils se pensent ne pas être politiques parce qu'ils font ce que disent les commissaires. Le commissaire est comme un ministre, dans un sens, c'est comme un ministre. C'est quelqu'un qui est la tête de la direction générale et qui, bien sûr, doit représenter un intérêt européen. Mais l'intérêt européen, ça change aussi.
C'était, vu du Berlaymont, l'écriture d'un pouvoir européen, avec Frédéric Vincent, Ingemar Strandvik, Paola Testori-Koggi, Paula Duarte-Gaspar, Zoltán Massé-Kosubek, Michel Rivasi et Linda McEvan. Remerciements à Quentin Dickinson, attaché d'émission Christine Bernard et Eve Etienne, productrice coordinatrice Irène Omelianenko, prise de son Patrice Klein, mixage Philippe Bredin, un documentaire de Véronique Villa, Laurent Veneguès et Laurent Le Gall pour Sur les Docs.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 avril 2014.